Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance, l'émission sur la famille occidentale contemporaine. Ce soir, je vous propose la suite de l'interview de la semaine dernière de Mila Aleshkovic-Bataille. Madame s'exprimait en direct depuis Belgrade. Donc toujours une émission psycho-neurologie, psychiatrie ce soir. La semaine dernière, nous avons évoqué la psychiatrie noire, c'est-à-dire l'art de dénaturer les connaissances psychologiques et psychiatriques pour asservir, contrôler et nuire. Nous avons aussi abordé les problèmes de l'éducation nationale qui mélange et ne distingue pas les comportements normaux des comportements anormaux, ce qui endommage les enfants. Et les conséquences des agressions sexuelles et psychologiques sur les enfants qui les affaiblissent et en fait les rendent plus contrôlables et plus malléables. Par exemple, les viols rituels. Et là, ce soir, nous enchaînons sur comment devient-on un pervers, comment devient-on un pédophile, quels sont les processus derrière qui sont en jeu.
Oui, alors je les ai classifiés en trois catégories et ça c'est intéressant pour savoir justement quelles sont les causes, comment on devient un pervers, parce que tout le monde n'est pas condamné. Hein. Il y a la première catégorie, ce sont les victimes. C'est la catégorie des victimes, ce sont ceux qui ont, ceux qui ont subi le viol dans leur enfance. Et donc, qui s'identifient à l'agresseur, voilà, encore une fois, un mécanisme très, très bien défini, l'identification à l'agresseur. C'est très important de savoir ce que c'est. C'est un mécanisme qui était défini par Anna Freud dans les années 30, si ma mémoire est bonne. Et lorsqu'une victime ou un enfant adopte les traits, les comportements ou même les culpabilités de son agresseur pour survivre à un traumatisme, etc. Et après, il les répète sur quelqu'un d'innocent à son tour. C'est un mécanisme très, très pathologique. Il est individuel ou collectif. Il pourrait être individuel ou collectif.
Oui, mais là, on va déculpabiliser beaucoup de gens. Ce n'est pas parce qu'on a été agressé qu'on va devenir soi-même un agresseur. Ça ne concerne pas tout le monde.
Bien sûr.
Parce qu'on dit ça, ça veut dire que quelqu'un va dire « j'ai été agressé quand j'étais enfant » et tout, on va se reculer en disant « il va faire pareil à nos gosses, à nous ». Donc, il faut dire que ce n'est pas toutes les personnes qui ont été agressées qui vont se transformer en monstres.
Bien sûr.
Ça, c'est
le, voilà. Bien sûr que non. C'est la théorie de la résilience. Plus l'enfant est intelligent, créatif, il y a le côté génétique, évidemment. Plus le reste, si on le traite à temps, etc. Très bien, ça pourrait être, le travail de la sublimation pourrait être fait. Le travail de la sublimation, c'est justement, comme disait Freud, toute notre culture est fondée sur le traumatisme. Donc vous sublimez et vous êtes dans la création, dans la vie normale. Vous avez des agressions, des instincts. Tous les chirurgiens ont sublimé les instincts, très agressifs. Ils sont devenus, ils sont dans une profession noble. Donc, non, bien sûr que non. Il y a des enfants qui, évidemment, ils s'en sortent, il n'y a pas de problème. Mais il y en a aussi qui s'identifient à l'agresseur, ce sont les victimes. Et donc, les victimes, ils développent un infanticide inconscient. Ils ont peur du monde adulte. Ils restent dans cette sexualité infantile. Ça, c'est le cas de certains de ces victimes, violées, traumatisées à leur tour dans leur enfance. Et après, ils deviennent des pédophiles, mais ils ne sont pas forcément des pédocriminels. En étant des pédophiles, c'est-à-dire en restant dans cette sexualité infantile, en ayant peur du monde d'adultes, des adultes qui agressent les mineurs, ils pourraient tout simplement rester, ils ne vont pas passer à l'acte. Ils vont pas violer des enfants à leur tour, loin de là.
Alors, j'ai beaucoup de psychologues qui m'ont dit, par contre, que ça bloquait leur développement et que l'âge du traumatisme, en fait, était quasiment détectable a posteriori parce qu'on voyait qu'ils avaient un retard ou dans leur développement psychologique et intérieur. Ça, c'est l'effet aussi que peut avoir l'agression sexuelle dans l'enfance. Si vous êtes agressé à 5 ou 12 ans, vous avez un retard. Et voilà, c'est pas anodin.
C'est l'aspect des enfants qui sont plus faibles et il y a la psychose infantile dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'autisme. L'autisme, c'est la psychose infantile, comment dire. C'est la psychose où il y a caractérisé par la coupure des liens affectifs avec les parents ou le monde extérieur. L'enfant qui a subi un viol, mais le viol pourrait être fait par un grand frère. Mais il y a une coupure des liens affectifs. Et la coupure des liens affectifs souvent se traduit dans l'enfant cesse de parler. L'enfant autiste, c'est-à-dire l'autisme, c'est la psychose infantile, enfin aussi des adultes, mais là on parle des enfants, c'est l'enfant qui cesse de parler, et lorsque l'enfant cesse de parler, il ne peut plus développer le cognitif normalement, parce que dans l'enfance, le développement du langage et le développement de la pensée vont en parallèle. Et si l'enfant ne parle pas, si l'enfant a cette coupure affective et à cause de ça, l'enfant cesse de parler, ça c'est l'autisme. Une des formes, il y a plusieurs types d'autisme, c'est un phénomène très complexe, mais disons ça comme ça maintenant. Si l'enfant cesse de parler, le langage ne joue plus dans le développement de l'intelligence et l'intelligence abstraite ne peut pas se développer normalement. Donc là, vous avez tout à fait raison, il y a un déficit cognitif chez ces enfants qui est causé par ce traumatisme aussi dans l'enfance, mais par l'inexistence des émotions, de l'émotionnel qui est soit réduit, soit inexistant. Parce que dans l'enfance, ce qui est très important, dans l'enfance de l'enfant, c'est que le développement du cognitif, de l'intelligence et le développement de l'émotionnel soient en parallèle. Si ce n'est pas le cas, vous avez des problèmes. Cet enfant aura toujours des problèmes. Enfin, il faut le traiter à temps et bon, personne n'est condamné. Mais il y aura des problèmes. Et quand on parle, justement, j'ai mentionné le problème des autistes de haut niveau, c'est un concept à la mode contre lequel je me bats parce que je m'inscris en faux contre ça. C'est un vernis de scientifique qui ne mène à rien. C'est complètement futile de parler des autistes de haut niveau parce qu'il y a rien de haut. Ce sont les enfants qui n'ont pas des émotions, qui sont performants. Les autistes de haut niveau, comme on dit, c'est très à la mode de parler de ça maintenant. C'est des enfants qui peuvent calculer, faire quelques équations, même avoir la mémoire mécanique, voilà, mais qui n'ont pas d'émotions. Et leur intelligence sociale, elle est pratiquement inexistante. Ils n'ont aucune empathie, ils n'ont pas des émotions.
Les Asperger, alors, on nous a beaucoup montré d'Asperger, on a un peu fantasmé sur les Asperger qui seraient supra-intelligents et autres. Montrer ça.
Oui, mais c'est une forme. Il y a beaucoup de types. Mais je veux dire, quand on dit un autiste de haut niveau, ça veut dire un enfant qui peut jouer sur Internet, peut calculer peut-être un petit peu, pour ça, mais qui ne comprend pas les émotions des autres. Et c'est très grave. Et après, on s'étonne qu'il y a le phénomène de mass shooting ou de tuerie en série dans les écoles et tout ça. Écoutez, un enfant qui ne développe pas le côté émotionnel, il est perturbé dès le départ. Parce que dire, voilà, il est performant, il calcule bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il va développer les traits sociopathiques, même psychopathiques après. Et qu'est-ce qu'ils font ces enfants qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas d'empathie? Et bien souvent, ils maltraitent les animaux, ils torturent les animaux, qu'ils font avec les animaux quand ils sont petits, ils feront après avec des adultes. Donc il faut les traiter tout de suite. Et il ne faut absolument pas parler des autistes de haut niveau. Il faut être sincère, il faut parler franc, il faut dire dans mon métier, ce sont les enfants perturbés, il faut travailler avec eux et il faut réveiller le côté émotif d'une façon ou d'une autre par une psychothérapie. Le haut, là, le niveau haut, ça n'existe pas. Il n'y a rien. Hein, et c'est absolument faux parce que qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui sait? Ce sont les petits gosses qui jouent sur Internet en bombardant, par exemple, il y a des jeux, on bombarde l'Irak, on bombarde la Yougoslavie, on bombarde un pays, voilà. Et les enfants sont très heureux parce que c'est un jeu, ils bombardent. Et là, ils voient les images des morts, mais ils ne réagissent pas. Parce qu'il n'y a pas, le côté émotif n'existe pas. C'est pour eux, c'est un jeu. Et bien, si c'est un jeu pour eux à cet âge-là, eh ben, demain, ce seront des Epstein et des Kidman et des... voilà. Là, moi, je me bats contre ce concept parce qu'il est très à la mode et il ne veut rien dire. Il faut être franc, il faut dire tout simplement dans notre métier, il faut traiter ces enfants, il faut travailler sur eux pour essayer de récupérer un côté émotif et de les réveiller, de trouver un côté humain là, et pas de parler seulement de l'intelligence abstraite.
Là, si j'ai bien compris ce que vous ne dites pas que tous ceux qui jouent aux jeux vidéo vont devenir des tueurs en série. Vous dites par contre que les personnes qui ont déjà un problème latent, dont on ne s'est pas occupé correctement, le fait de jouer à des jeux vidéo, d'aller sur les nouvelles technologies, sur des choses ultra-violentes, vont en fait renforcer leur vulnérabilité et les transformer en personnes qui, elles, vont être potentiellement dangereuses, c'est ça ?
Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Vous avez très bien décrit. Et là, juste pour simplifier, parce que c'est assez difficile à expliquer, et puis c'est dur à, enfin, il faut endurer tous ces sujets, parce qu'il s'agit des choses très graves contre les enfants. Là, donc, j'ai parlé de cette première catégorie, ce sont des victimes qui ne sont pas forcément, ils ne passent pas forcément à l'acte, même s'ils étaient traumatisés dans leur enfance et même violés peut-être, ils ne deviendront pas, pour le coup, les agresseurs. C'est la première catégorie, ils sont toujours soignables. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des, ce sont des personnes qui ne sont pas des vrais pédocriminels, mais qui sont des pédophiles imaginaires. Là, vous avez dans la, chez les artistes, chez les philosophes, chez les sculpteurs, il y avait toute une mode après les années 70. On revient souvent à l'Antiquité grecque, en parlant des philosophes grecs anciens, qui, parce qu'il y avait tout un mythe d'un philosophe maître et de sa relation avec son élève, qui était une relation intellectuelle, mais aussi psychologique, émotive et physique, pourquoi pas, à l'époque.
J'ai une petite question, oui. Dans cette là. Avoir une vie intérieure extrêmement intense, effectivement, c'est pas interdit. Ça, on peut, voilà, tant qu'on passe pas à l'acte. Mais je pense qu'il y a aussi une différence entre fantasmer sur des enfants prépubères et fantasmer sur des adolescents qui sont déjà formés. C'est pas deux choses différentes, là ?
Vous avez tout à fait raison, parce que moi, je considère... Les adolescents sont sexuellement mûrs.
Non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont attirés, par exemple, on le voit notamment sur Internet, ils vont chercher, enfin, des recherches sur les petites teens, tout ça, il y a des gens qui ont cette espèce de fantasme intérieur, et par contre, ils sont absolument dégoûtés par les enfants qui... je crois qu'il y a un terme pour ça, c'est pas la même chose.
Oui, vous savez, les adolescents ont une maturité sexuelle, génitale et tout ça, et là, on peut pas vraiment parler du viol dans ce sens-là, mais là, c'est un contexte, est-ce que c'était avec un consentement ou pas,
oui,
etc.
Voilà.
Mais alors, parce que nos ancêtres se mariaient et procréaient en ayant 12 ans, 13 ans. Hein, c'était ça dans l'île. Mais quand il s'agit des tout petits, des enfants qui ont 4, 5, 6 ans, fantasmer, parler de l'amour avec ces enfants-là, c'est déjà autre chose. Bon, en ce qui concerne cette catégorie des imaginaires, donc vous avez ça chez Oscar Wilde, par exemple. Vous avez chez Matzneff, c'est Henri de Montereau.
Oui, tout un mouvement en France, Matzneff et autres. Oui, voilà. Et puis, il faut apprendre le sexe à nos enfants dans les années 70. Il y a eu des gens qui ont fait des tribunes sur ça.
Ça, c'est connu, ça. Enfin, André Gide, de Nourriture Terrestre, Coridon, tout ça, on connaît. Et donc, même chez les philosophes qui ont, à un moment donné, signé les pétitions concernant voilà, le sujet l'amour avec les enfants, pour les enfants, etc. Il y avait Sartre, Derrida, Foucault, les philosophes. C'était une mode. Plutôt, c'était à la mode de parler de... Parce que l'idée, c'était se libérer par le sexe. Voilà, c'est toute une idéologie de la libération par cette liberté, libertine, etc. Mais si c'est de l'imagination, d'accord, c'est dans les romans, c'est dans les toiles, sculptures, tout ça, d'accord. Alors, moi, je les traite, ce sont les pédophiles imaginaires. Mais attention, s'il s'agit de la pédopornographie, ça, c'est déjà différent. Parce que la pédopornographie, avant, n'était pas considérée comme quelque chose... Ça n'allait pas au pénal, mais aujourd'hui, par les conventions, par les de l'Union européenne, vous savez, en 2000... ça a commencé en 2007, en 2011, et puis en 2021, lorsqu'ils ont démantelé un grand Boys Town, une opération, c'était une opération de la pédocriminalité. Et donc, là, ça n'a pas été... mais maintenant, c'est très contrôlé. Hein. Maintenant, les personnes qui regardent les photos, les images, la pédopornographie, elle est interdite.
Bien sûr. Avoir des images d'enfants martyrisés sur son ordinateur de manière sexuelle est absolument interdite. Oui. Et on va au pénal. L'échange de ces images et autres,
absolument.
Fort heureusement...
C'est déjà à ce niveau-là, iconique. Bien donc, c'est pas, voilà. Ils ne sont même pas obligés de passer à l'acte. S'ils consument ce genre de choses, c'est déjà ça. Voilà. Parlons de ces imaginaires. Il y a la troisième catégorie qui est des pédophiles qui sont déjà devenus des pédocriminels. Là, ils deviennent des pédocriminels. Et cette catégorie-là, elle est la plus dangereuse parce que là, ils passent à l'acte. Ce sont vraiment des... Là, on peut dire dans mon métier, ce sont des psychopathes. Et c'est des personnes qui violent les enfants. Et donc là, il s'agit... c'est plus l'imagination, c'est un passage à l'acte. Ce sont des agresseurs, ils violent les enfants. Et dans cette troisième catégorie, qui est la plus difficile, qui est la plus dure, qui est la plus dangereuse, il y a aussi deux sous-catégories. Parce que nous connaissons un diagnostic très difficile, ce sont les psychopathes épileptoïdes. Ça, c'est une sous-catégorie. Les psychopathes épileptoïdes, ce sont les personnes qui sont complètement perturbées et qui violent les enfants sous l'emprise de l'instinct. Ils sont guidés par l'instinct. Enfin, ils ont souvent le déficit cognitif, c'est l'intelligence assez faible, etc. C'est un profil des psychopathes épileptoïdes. Ça, c'est une catégorie. D'accord. Et l'autre, ce sont des sadiques intelligents. Et le problème est, justement, le problème est là chez ces personnes qui font toutes ces choses sciemment, avec préméditation, comme on dit. Et pour eux, le viol des enfants est un jeu de pouvoir. Donc, ce sont les personnes qui se considèrent soit dans une idéologie comme d'être uber, c'est-à-dire au-dessus des autres, comme c'était l'idéologie nazie, par exemple, enfin, le surhomme nietzschéen mal compris, pour dire qu'ils resteront dans une impunité totale et qu'ils sont au-dessus des autres. D'accord. Et qu'eux, ils violent des enfants, non pas parce que c'est le plaisir sexuel, pour eux, c'est le plaisir politique. Oui. Sociologique.
On le voit dans l'actualité récente avec les fichiers d'Epstein d'ailleurs, hein. C'est-à-dire des gens qui s'autorisent, s'autorisent certaines choses qui sont ultra transgressives.
Mais là, c'est un jeu de pouvoir. Pour agresser les enfants, ce n'est qu'un aspect de ce jeu de pouvoir. On en a d'autres. Donc, ils font tout pour, en abdiquant toute morale, ils se considèrent comme au-dessus des autres et leur but, c'est d'humilier les gens, d'humilier les autres, les faibles, les démunis. Et c'est un mépris, en fait. C'est un mépris envers les faibles. Alors, satisfaction d'être au-dessus du commun des mortels. Voilà, ça, c'est un jeu de pouvoir.
Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tous ces comportements qui vont endommager nos enfants ou ces comportements de transgression sont encouragés, vulgarisés actuellement ? Il y a une volonté derrière ou c'est juste qu'on remarque aujourd'hui ce qu'on ne remarquait pas auparavant par les réseaux sociaux, le fait que tout le monde ait une caméra sur lui maintenant ou un micro ? On a vraiment l'impression que, dans certaines manifestations, certains événements, des expositions, des fêtes et autres, on encourage certaines choses transgressives.
Vous savez, c'est difficile à expliquer. Je crois que, à mon sens, ça existait de tout temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais tout simplement, maintenant, c'est vraiment une méthode. C'est une méthode de contrôler les personnes. Toutes les méthodes de la psychiatrie noire sont en fait les méthodes d'humiliation. Privation physique et psychologique, privation sensorielle, méthode du choc, de la schizophrénie, de la paranoïa, incitation à la perversion, c'est tout ça, c'est la même méthodologie. C'est simplement contrôler les personnes, les gens par le traumatisme. D'ailleurs, il y avait un manuel, la CIA américaine avait un manuel qui s'appelait Kubark, et c'était un manuel comment torturer les gens, comment les rendre, pas physiquement, comment les torturer mentalement? Comment le casser la personne de quelqu'un? C'est ça, personality breakdown techniques. Comment les rendre tout à fait asservis, qu'ils soient d'accord avec tout ce que vous dites, qu'ils vont accepter tout, qu'ils vont signer tout, qu'ils vont avouer ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Donc, ce sont des anciennes méthodes. Malheureusement, ça se pratique dans les dictatures partout dans le monde, dans les prisons, etc. Il y avait beaucoup de... Et les politiciens et tous ces criminels ne ne serait rien du tout s'il n'y avait pas eu des psychiatres qui leur expliquaient comment ça se fait. Quelle est la méthode la plus simple pour casser la neurologie ou la conscience ou la mémoire
le détournement de méthodes qui sont censées soigner et aider, qui sont utilisées cette fois-ci pour asservir et pour manipuler. Est-ce qu'on peut terminer et conclure sur le point, vous vouliez parler, le centre social, les nouveaux systèmes de child care. Qu'en fait, alors, on va reprendre l'historique de l'interview. Hein. Vous avez critiqué l'instrumentalisation des techniques de soins pour des usages non nobles, dans manipulation et autres. Vous dites que le système éducatif et la société encouragent le traumatisme des enfants en bas âge pour les rendre plus tard plus facilement manipulables, plus contrôlables et moins pénibles pour la classe dirigeante, on va dire. Et là moi, je fais le rapprochement avec tout ce que je vois et j'entends sur l'aide sociale à l'enfance, tous ces courants qui viennent d'Amérique du Nord, qui remettent en cause la primauté biologique, qui font intervenir dans la famille des personnes de très jeune âge, qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont aucune expérience, et qui font des dégâts phénoménaux en séparant les personnes des familles, avec pour résultat une quantité énorme d'enfants traumatisés.
Oui, bah écoutez, ça n'a pas commencé aux États-Unis. C'est un système qui, en fait, est une réplication d'un système nazi qui s'appelait Lebensborn. Et malheureusement, ça commence dans ces derniers temps dans le giron de la Scandinavie, en Norvège. Et ce système s'appelait Barnevernet. Le système de protection de l'enfant qui a commencé bien, connaissance de, c'était un système de protection de l'enfant au départ. Et finalement, ils se sont orientés vers, ils sont venus dans un monde tout à fait criminel qui trafique les enfants, qui les achète, qui les vend, etc. Voilà. Pourquoi ? Ce sont les centres sociaux dans le monde entier sont briefés par cette idéologie de Barnevernet. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, là, il y a encore un problème qui est très important pour nos parents et pour nous, pour nos enfants, en fait. C'est la nouvelle méthode de false care. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre les enfants orphelins qui n'ont pas de famille ou qui ont la famille, ça dépend. On les prend, on les met dans une famille d'accueil, mais on les laisse pas dans cette famille d'accueil. On les transfère dans une autre famille d'accueil.
On les bouge en permanence, oui.
Voilà. On les balade partout. Alors, pourquoi c'est très pathologique? Déjà, ça, je ne vois pas comment ça pourrait se faire avec un consentement de nos collègues, des psychologues ou des psychiatres qui savent très bien qu'un enfant, au moment de l'identification avec un adulte, ne doit pas être, on peut pas le bouger. Il faut le laisser dans la famille. Que ce soit un enfant qui n'a pas de famille, un orphelin, il faut qu'il soit adopté tout de suite.
Le lien d'attachement, qu'il est très tôt, c'est deux liens d'attachement. On m'a expliqué ça.
Eh oui, mais s'il n'y a pas ça, c'est déjà un problème.
Voilà. Donc, sans lien d'attachement, la personne vrille. Oui.
On l'adopte tout de suite. En revanche, s'il a des parents qui sont problématiques, on ne peut pas l'enlever comme ça, parce que Barnevernet System, ils prennent des enfants en famille pour un rien. Alors, si la famille est problématique, il faut travailler avec cette famille, travailler avec cet enfant, faire la psychothérapie, aider la famille, et l'enfant doit rester dans cette famille. Évidemment, s'il n'a pas de parents, il faut qu'il soit adopté. Le pire, c'est de le balader d'une famille à l'autre, parce qu'ils ont inventé un système qui s'appelle, licence, qui dure 2 ans. Vous vous rendez compte? 2 ans. Alors 2 ans, on le met dans une famille, au bout de 2 ans, on le transfère dans une autre. En fait, après 2 ans, on le transfère dans une troisième. Et comme ça, cet enfant devient schizophrène. Cet enfant ne sait plus à qui il appartient. Cet enfant n'a pas eu l'identification qui est obligatoire quand il a 7, 8 ans. Un enfant doit être vraiment avec une personne, que ce soit la famille monoparentale, peu importe. Mais on ne peut pas le séparer de la personne avec laquelle il s'identifie. C'est le pire. Et après, qu'est-ce qu'ils font? En fait, je me demande pourquoi ils font ça, parce que c'est tout à fait contraire à toutes nos connaissances. Est-ce que c'est fait pour faciliter le trafic d'enfants? Parce que cet enfant ne pleure plus, il devient apathique, il ne sait pas à qui il appartient, il est un peu schizophrène, il ne sait pas, enfin, il perd la mémoire. Et on peut le transférer n'importe où, dans n'importe quel pays, enfin le vendre finalement, malheureusement. Est-ce que c'est fait pour ça? Je ne sais pas, mais le système Barnevernet travaille avec une société privée aux États-Unis qui s'appelle Hopscotch Adoption. Et cette société, elle est vraiment, vraiment très problématique, parce qu'ils ont fait, ces sociétés font les accords avec les centres sociaux, surtout dans les pays pauvres. Et là, les enfants se sont pris comme ça, n'importe où, soi-disant adoptés à l'international, mais il y a un tarif, il y a des prix, c'est un trafic d'enfants, tout simplement. As simple as that, comme disent les Américains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul pays qui a porté plainte contre cette agence américaine et contre ce système, finalement, c'est l'Arménie. L'Arménie, au plus haut niveau, l'État a porté plainte contre la société américaine Hopscotch Adoption et du coup contre le système Barnevernet. Et la Roumanie aussi avait des problèmes parce qu'ils prenaient des enfants comme ça, je sais pas, la mère était pauvre, les frigos étaient vides et on prend les enfants. Non, c'est vraiment quelque chose, c'est une pratique criminelle. Et c'est pour cette raison-là, déjà dans le concept, dans la théorie de false care, rien ne va. C'est absolument inadmissible, scientifiquement parlant, et quand on connaît la psychologie de l'enfant, on ne peut pas accepter qu'un enfant soit transféré comme ça dans 3-4 familles, c'est absolument interdit. Et deuxièmement, ils prennent les enfants aux familles pour pratiquement rien, pour des raisons vraiment... c'est dans les pays pauvres, surtout, que ça se passe.
Ah, ben la France est devenue... Oui, ben en France, si, on a beaucoup de problèmes. Ils séparent les frères, ils séparent les sœurs, ils ne respectent pas les lois. Ils viennent pour parfois en nurserie, lorsque la mère vient à peine d'accoucher, puis qu'elle est fragile. Tiens, elle est nouvelle dans ce département, elle est très peu entourée, elle a l'air un peu faible. Hop, le bébé va aller ici ou là.
Oui.
Il est transvasé d'un endroit à l'autre.
Oui.
Assez régulièrement, on ne sait même plus où il habite, on ne sait même plus où il est, ce qu'il fait et autres. On le retrouve à 14-15 ans tatoué complètement partout, à moitié barge, drogué, avec des comportements à risque. Et malheureusement, l'État intervient de plus en plus. Il faut aller sauver les gens, Et le résultat de toute cette mécanique, bah, ce sont des gens qui sont très endommagés.
Ah bah ça, c'est à tous les coups. Hein. Bah, on peut pas... si vous voulez, ce sont des problèmes graves, mais j'essaie quand même de voir ce qui est le plus en vogue aujourd'hui. Donc, c'est ce concept d'autisme de haut niveau qu'il faut absolument combattre. Il faut se battre contre cette pratique de fausse cœur qui mène au trafic. Il faut expliquer bien ce que sont les vraies causes de la pédocriminalité, comment on devient un criminel tout en étant un pédophile, bon, imaginaire, mais comment on devient vraiment, comment on passe à l'acte. Et finalement, aussi, il y a de nouvelles méthodologies, de nouvelles technologies qui sont susceptibles d'affecter le cerveau de nos enfants, mais c'est un problème. C'est encore un troisième sujet qui est beaucoup plus grave. Et donc, on n'aura pas le temps de le mentionner maintenant.
Bon.
Écoutez, c'est in fine, la question se pose, où est-ce qu'on peut, comment sortir de cet enfer? Eh bien oui, c'est ça. Comment sortir du monde d'un écrivain qui s'appelait Eric Blair, et qui écrivait sous le nom d'Orwell. Voilà, il a tout décrit.
Ah oui,
déjà tout décrit.
C'est vrai. Et moi, ce qui me fascine, c'est le mot que je trouve là à chaud, c'est de voir tout ceci, surtout en Occident. Voilà.
Attention,
de l'Ouest,
attention.
États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est là que je le vois.
Mais attention, attention quand même, parce que quand on parle de l'Occident, nous on vit...
En Europe de l'Est, c'est en direct de Belgrade, je rappelle.
Mais je suis à cheval entre deux pays, mais je suis en France quand même. Quand on parle de l'Occident, on accuse maintenant l'Occident, la perversité, etc. Mais attention, nous on sait ce qui se passe. Parce que les files Epstein, ça sort, sort maintenant.
On le savait avant.
On le savait.
Ça fait des années que j'en parle ici.
Oui, une trentaine d'années au moins. Mais quand vous parlez souvent on parle des pays de l'Est où ça se passe pas, c'est pas comme ça.
C'est différent. La manière de faire est différente. Il y a toujours de la perversion, il y a toujours de la criminalité, mais c'est différent. C'est pas les mêmes courants.
C'est différent. C'est différent, comme vous dites, mais il y a aussi ce problème que dans certains pays, tout simplement, on n'en parle pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais ça se sait jamais.
Non, mais le fait maintenant que les médias, que l'institution, que tout ce qui a trait à l'éducation aille volontairement essayer d'instiller certaines choses dans nos enfants, ça vraiment, c'est en Occident.
Oui, on peut parler comme ça. Enfin, on peut dire ça parce que, vous savez, on est vraiment dans une décadence. Ça, c'est évident. Hein. Mais déjà, cette relativisation dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai mentionné la relativisation, parce que, vous savez, le relativisme logique s'auto-réfute toujours. Le relativisme, je ne parle pas de la théorie d'Einstein, parce que ça c'est autre chose dans un autre domaine, mais le relativisme logique conséquent, il s'auto-réfute, il est impensable. Donc il y a quelque chose de faux quand on veut tout relativiser et quand on veut effacer la différence entre le comportement sain et le comportement malade. Quand on veut effacer la différence entre le mal et le bien. Vous avez déjà le zoroastrisme, une ancienne philosophie qui a influencé le judaïsme, le christianisme, l'islam. Déjà dans le zoroastrisme, c'était bien défini. Il y a le mal et il y a le bien. Il y a le noir, il y a le blanc. Il faut choisir. On peut être dans une grisaille dans notre vie. Mais quand on fait un choix normatif, il faut savoir choisir entre les deux. Et quand on essaie de relativiser, vous savez, Michel Foucault, il a parlé du concept de la folie à travers les siècles, comment ça a changé. Parce que le concept de la folie, c'est vrai que c'était pas toujours le même concept. Dans une diachronie, dans le temps, le concept de la folie changeait, ça c'est vrai. Mais dans une synchronie, au moment où nous vivons, nous savons très bien ce qui pourrait être être sain et ce qui pourrait être malade. Et on ne peut pas faire cet amalgame, on ne peut pas jouer avec le relativisme. C'est comme le dialogue de Machiavel, dialogue aux enfers de Machiavel et de Montesquieu. Vous avez déjà tout dans ce dialogue. C'est toute l'ingénierie sociale y est déjà. Il y a déjà, regardez ça, c'est très intéressant. Dans ce dialogue, vous avez déjà le renversement de toutes les valeurs. Alors maintenant, on parle de l'Occident, on est filé, on est maintenant dans une décadence et tout ça. Mais en fait, Socrate et Trasimaque, la même chose. Comment relativiser, comment inverser les valeurs pour contrôler la population? Alors, c'est très ancien. Mais évidemment, il faut se battre contre ça. Il faut se battre contre un relativisme malsain. Bon. Voilà. Il faut savoir ce qui est malade et ce qui est sain. Même si on discute là-dessus.
C'était le professeur, le docteur Mila Alechkovic Bataille, j'espère que j'ai prononcé comme il le faut, en direct de Belgrade. Je vous encourage à aller voir ses ouvrages, notamment celui sur la psychiatrie noire. Et madame, merci beaucoup. Et puis, c'est une excellente soirée.
Écoutez, je vous remercie de votre invitation et c'est un exposé que je vous livre à votre réflexion.
écoutez
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.